Non, bonjour à tous. C'est vrai que c'est particulier ce matin, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu toute cette période, ces derniers mois. C'est vrai que c'était, une fois de plus, très, très particulier. Mais ce qui est sûr, quand on discute les uns avec les autres, et sauf si on a travaillé tout autant, que ça n'a rien changé pour nous, notamment cette période de confinement, bah, le moins de choses qu'on peut dire, c'est qu'on a eu parfois plus de temps que d'habitude pour faire des choses peut-être qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. J'ai eu un peu plus de temps pour faire des choses que je n'avais pas forcément l'habitude. Et les choses que j'ai pris le temps de faire, c'est de lire des histoires. Alors, enfant oblige, j'ai lu des histoires à mes enfants. Autant vous dire qu'à un moment donné, c'était quand même assez limité, parce que pour vous fixer le niveau, c'était du Peppa Pig et du Choupi, toujours les mêmes histoires en plus. C'était un peu lassant, ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je me suis posé la question de dire, bon, comment faire pour apporter quelque chose de nouveau. Je suis donc sorti de ma zone de confort, pour reprendre la prédication de papa il y a 2 semaines, pour moi et pour mes propres enfants, et j'ai sorti des vieux livres, dont celui-ci. Alors, ce n'est pas un vieux livre, puisque Rita, peut-être que tu le reconnais. C'est un livre que Rita nous a donné pour les enfants en début d'année. Mais on n'avait pas eu trop l'occasion encore de le sortir. Je dis, bah tiens, c'est l'occasion. Donc, c'est le livre qui dit, donc, bien nommé la Bible, un peu moins épais quand même que la nôtre, mais qui reprend simplement les histoires de la Bible en les appliquant et en les expliquant avec des mots compréhensibles pour les enfants. Et ce qui est rigolo quand on sort ce genre de livre, et c'était mon cas, c'est qu'on retombe parfois sur des histoires qu'on nous a racontées quand on était petit et qu'on ne prend pas forcément le temps adulte de relire parce qu'on ne tombe pas forcément dessus ou pour différentes raisons. Et pourtant, ces histoires, quand on tombe dessus et quand on les relit à l'âge adulte, elles peuvent parfois nous marquer et nous impacter 10, 100, 1000 fois plus que quand on était petit. Et ce fut le cas pour une des histoires qui m'a inspiré la prédication de ce matin. Cette histoire, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, qui était quand même quelqu'un de très important, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, pour plusieurs raisons, pour trois, pour resituer le contexte pour ceux qui auraient oublié ou qui ne sauraient pas. C'était un roi d'Israël, et pas n'importe quel roi, puisqu'il était le descendant d'un autre roi connu, puisqu'il était le fils du roi David. Mais Salomon était également important parce qu'il avait une qualité qui lui était propre et qu'on reprendra ce matin, c'est qu'il était connu pour sa sagesse. Il était très sage. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le livre des Proverbes dans la Bible, ce qui veut tout dire. Mais Salomon est également connu parce que c'est pendant son règne que fut construit le temple à Jérusalem, ce temple qui permit au peuple d'Israël de se rapprocher encore plus de son Dieu. Bref, c'était un personnage important et de son histoire, il y a énormément de choses à retenir. Alors moi, ce que j'ai choisi ce matin pour vous, pour nous, pour pouvoir aussi l'appliquer à notre propre vie, c'est de prendre 2 extraits de l'histoire de Salomon. 2 extraits qui feront 2 parties et qui nous permettront, comme je vous le disais, de pouvoir l'appliquer à notre propre vie. Et la première application, à travers le premier extrait que je vais vous lire maintenant, c'est comme si le Seigneur nous donnait à tous un conseil que l'on peut appliquer. Ce conseil, je l'ai noté ici, c'est la partie 1, « Cherchons la sagesse de Salomon ». Je vous propose de le lire ensemble. Alors, je ferai bien sûr référence ensuite à l'histoire biblique, mais je vous propose de le lire comme le livre nous le présente dans un premier temps, et on y reviendra juste après. Après la mort de Saül, David fut sacré roi d'Israël, et quand David mourut à son tour, son fils Salomon devint roi. Une nuit, Dieu apparut en rêve à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Salomon répondit « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as fait de moi un roi à la place de mon père David. Et mon peuple est nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter. Donne-moi un cœur plein de sagesse, un cœur qui sache choisir le bien et repousser le mal. Sinon, comment saurais-je gouverner un si grand peuple ? » La réponse de Salomon plut à Dieu et Dieu lui dit « Puisque tu n'as demandé ni la richesse, ni une longue vie, ni la victoire à la guerre, je te donne un cœur sage et intelligent comme personne n'en a eu avant toi et comme personne n'en aura après toi et tu seras un grand roi parmi les rois. » Alors cette histoire, c'est le début de l'histoire de Salomon, on la retrouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 3. Je vais me baser aussi bien sur ce qui est noté ici, puisque ce que je vous l'ai lu, mais aussi sur, quand on lit 1 Roi 3, qui reprend à peu près les mêmes termes, hein, bien sûr, ce que l'on peut en ressortir. Et qu'est-ce que l'on peut en ressortir et que nous apprend tout d'abord cette histoire sur Salomon? Quand on reprend la Bible, c'est encore plus impactant. Elle nous montre dans un premier temps, dans 1 Roi 3, verset 3, dès le début, que Salomon était un roi qui aimait le Seigneur. Et quand je vous parlais d'application pour notre propre vie, je pense qu'ici, c'est quelque chose de très important. Nous sommes tous appelés ce matin à aimer le Seigneur, comme Salomon. Et quand on aime quelqu'un, on lui prouve. Et Salomon avait une preuve d'amour pour le Seigneur, c'est qu'il est noté au verset 4 qu'il donnait sans compter pour Dieu. Et si nous aimons le Seigneur, alors celui-ci nous invite à donner sans compter pour lui. Alors ici, il n'est pas question dans 1 Roi 4 de temps, peut-être de compétences, d'argent, comme nous on pourrait l'imaginer à notre propre siècle. Alors à l'époque, pour situer dans le contexte, il est noté qu'il donnait énormément d'animaux sans compter pour les sacrifices, c'est une autre période, mais c'est bien marquant à ce point-là. Et surtout, Salomon n'était pas simplement une personne qui aimait Dieu, un roi qui aimait Dieu, mais c'était aussi un homme et un roi qui aimait son peuple, on le voit dans ce que je vous ai lu ici, et qui aimait ceux qui l'entourent, et notamment aussi ses ancêtres. Et il est noté au verset 3 que Salomon respectait tout ce que lui ont enseigné les anciens. Comme Salomon, je pense que le Seigneur nous invite vraiment à respecter ce que nous enseignent les anciens. Bref, en lisant ces trois premiers points et le début de cette histoire, nous apprenons et nous voyons que Salomon, rien que sur ces points-là, avant même d'avoir commencé, nous est présenté comme un homme sage, posé, intelligent, humble, bref, avec de belles qualités. Et pourtant, il va prendre tout le monde de revers, par surprise, même le Seigneur, même Dieu. Parce que quand Dieu vient dans son sommeil et lui demande « Bon, Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai », alors il ne sort pas à ce moment-là sa liste en disant « Bon, ben, matériellement, j'aurais besoin de ça, 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 et dans ma vie, j'ai ça, ça, ça aussi qui ne va pas, alors règle ça ». Non, il demande, alors qu'il l'est déjà, d'après les premiers versets, encore plus de sagesse et d'intelligence. Que nous apprend et que peut-on retenir de ce premier extrait, de cette première histoire ? Ben, je vous propose deux conclusions sous la forme de questions que Dieu vous pose, que Dieu me pose, que Dieu nous pose. La première serait la suivante. Dans la société matérialiste et individualiste qui nous entoure, notre sagesse ou soif de sagesse est-elle équivalente à celle de Salomon ? Je parle pour vous, mais je parle aussi pour moi. Il faut être honnête, et à un moment je me dis, si le Seigneur apparaissait dans mon sommeil et me disait « Geoffrey, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai », et je parle pour moi, mais je parle pour vous, combien d'entre nous ne sortirions pas notre liste en disant « Seigneur, moi j'aimerais bien avoir ça, ça matériellement, ou alors tu vois, dans telle situation, j'aimerais que tu règles ». Qui ferait ça ? Je pense que beaucoup d'entre nous peut-être le feraient. Alors qu'ici, finalement, on voit que Salomon, lui, ce qu'il demande, c'est des valeurs plus fortes, qu'il mettra, et il est bien noté dans cette histoire, pas simplement à son propre service, mais surtout au service des autres, de son peuple. Vous savez, j'avais une habitude pendant cette période du confinement, c'est que le soir, quand je prenais mon bain, je mettais la radio. Pas pour écouter de la musique, cette fois, ce qui était mon habitude avant, mais pour écouter un peu les émissions, Covid-19, tout ça, je me dis, je vais me tenir informé. Et à chaque fois où je prenais mon bain, c'était toujours à une heure où il y avait une émission où ils débattaient un petit peu. Et un des débats qui a fait fureur, parce qu'il reprenait souvent, c'était la question suivante. Comment va ressortir la France ? Comment vont ressortir les gens de cette crise ? Est-ce qu'ils vont ressortir comme avant ? Est-ce que ça ne va rien changer ? Ou est-ce qu'ils vont ressortir avec de plus belles valeurs, avec un plus beau cœur, avec une volonté nouvelle et plus belle ? Et c'était rigolo d'écouter ce débat, parce qu'il y avait des gens qui disaient « Non, ça ne changerait rien. » Et puis il y avait des utopistes qui disaient « Oui, oui, si, si, on sortira, le monde sera plus beau, on sera tous gentils, etc. » Et malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que, on l'a vu, dès le début du déconfinement, malheureusement, la plupart, et on a vu beaucoup d'images à la télé, qui nous montrent que la plupart des gens sont malheureusement vite retombés dans leur travers d'avant. À travers cette situation, je pense que le Seigneur, ce matin, veut nous interpeller, et nous. Comment voulons-nous ressortir de tout ça ? Allons-nous sortir avec peut-être nos vieilles habitudes d'avant ? Et il parle aussi pour moi, c'est-à-dire en le priant uniquement, peut-être en faisant notre liste de courses ? Ou allons-nous ressortir, et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, même dans la société dans laquelle nous vivons, avec un désir de ressortir avec de plus belles valeurs, pas simplement pour nous, mais aussi au service des autres. Question 2, deuxième conclusion qui va dans la lignée de la première. Dans notre vie, ne comptons-nous pas trop souvent sur nous-mêmes, nos propres forces, notre propre sagesse, notre propre intelligence, comme si elles se suffisaient à elles-mêmes. Ça va, comme je vous dis, dans la conclusion de ce que je vous ai partagé avant. Il y a Proverbe 3,7 qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux ». C'est justement Salomon qui dit ça. Et là, encore une fois, je pense que le Seigneur veut nous interpeller en disant « Des fois, c'est vrai qu'on compte trop sur nous-mêmes. On pense qu'on est assez sage, qu'on est assez intelligent pour régler toutes les situations de notre vie, alors que le Seigneur est là et peut, dans certaines fois, nous prouver que ce n'est pas le cas et nous donner ce petit plus qui nous permettra de l'être. » Pour ça, il suffit simplement de le demander comme Salomon. On a pu l'expérimenter avec mon épouse, nous, il y a 4 ans, et moi, je l'ai pu expérimenter plus particulièrement pour ma propre vie. On avait une situation assez difficile avec 2 couples d'amis où c'était devenu tendu. Et à un moment donné, je me suis dit, marre de tout ça, je me suis cru d'être le plus sage, le plus intelligent. Je me suis dit, après tout, wow, je suis sage, je suis intelligent, je vais prendre mon ordinateur, je vais leur envoyer un message et je vais régler ça en 2-3 minutes. J'ai envoyé un message et j'ai repensé à ça en lisant cette histoire. Je me suis rendu compte que sur le coup, et je peux vous dire que sur le coup, ça a fait plus de dégâts qu'autre chose. Parce que j'ai agi par mes propres forces. Alors Dieu est bon et nous permet que ces situations, et aujourd'hui Dieu a permis que cette situation, on puisse se rattraper. Mais sur le coup, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai voulu trop compter sur ma propre sagesse, ma propre intelligence. Je n'ai même pas pris le temps, avant d'écrire de ce message, de me remettre à Dieu et de lui demander justement plus de sagesse et d'intelligence pour le régler. Ne comptons-nous parfois pas trop sur notre propre sagesse, notre propre intelligence pour notamment régler des situations comme si elles suffisaient? Non, je crois qu'il est important, comme ici le montre Salomon, de parfois mettre un peu d'humilité et demander à Dieu de nous en donner encore plus. Amen. Voilà pour la première partie et je vous propose d'aller sur une deuxième. Un autre extrait de l'histoire de Salomon qui va permettre cette fois de nous voir une application comme une vérité que Dieu veut placer sur notre cœur. Celle-ci, ben j'ai noté le titre, partie 2, « Soyons-en sûrs, Dieu est un Dieu de justice ». Je vous propose de le lire ensemble, un autre extrait de l'histoire de Salomon, et on en reparle juste après. « Or un jour, 2 femmes vinrent demander justice. L'une d'elles dit au roi Salomon, « Mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons la même maison, et toutes les deux, nous avons eu un bébé. » Mais le bébé de cette femme est mort cette nuit. Alors elle a pris mon fils pendant que je dormais, elle l'a mis à la place de son fils mort. L'autre femme cria, « Ce n'est pas vrai, mon fils est bien vivant, c'est le sien qui est mort. » Et elle criait et elle se disputait devant le roi Salomon. Alors Salomon dit, « Qu'on apporte une épée, qu'on partage en 2 l'enfant vivant et qu'on donne la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » La première femme cria, « Oui, partageons-le, il ne sera ni à elle ni à moi. » Mais l'autre femme supplia, « S'il te plaît, mon Seigneur, ne le tue pas, donne-le plutôt vivant à cette femme. » Alors Salomon déclara, « Celle-ci, celle qui vient de parler, est la mère, qu'on lui rende son enfant. » Dans tout le pays d'Israël et dans les pays alentours, on parla du jugement du roi et l'on vénéra Salomon, car sa sagesse venait de Dieu. Alors cette histoire nous montre une des applications, une des conséquences de la sagesse du roi Salomon, la façon dont il a géré cette situation pour la mettre finalement au service de la justice de Dieu. Alors c'était rigolo, et pendant aussi cette période de confinement, il y avait Simon et Nadège qui avaient ouvert un groupe, WhatsApp, vous savez, pour leur petit groupe de maison. Et c'était super sympa parce qu'on pouvait prendre des nouvelles des uns des autres. Et certaines personnes en profitaient aussi pour lancer un petit peu, vous savez, des petits débats, des petites questions. Et une des questions, si tu te souviens, Mathieu aussi y était, c'était est-ce que Dieu peut punir ? Est-ce que Dieu peut punir ? Alors on pourrait en faire une prédication, je pense là-dessus, on s'en aurait rendu compte d'ailleurs en répondant, c'est un sujet assez vaste. Mais la chose que je retiens aujourd'hui de tout ça, c'est à quel point finalement la réponse de chacun pouvait varier, que chacun avait une vision différente à la base, en fonction surtout de comment il avait vécu humainement la notion de punition étant jeune. Et je suis sûr aujourd'hui que si on parlait ensemble de la justice de Dieu, qu'est-ce que pour vous la justice de Dieu ? Chacun aurait peut-être une définition ou une vision différente en fonction de lui, comment il avait vécu des justices ou des injustices étant jeune. Or, la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Et on va voir ici en quoi cette histoire nous apprend de la justice de Dieu et en quoi nous apprend que Dieu est réellement le Dieu juste, un Dieu 100% juste, comme l'homme, des fois, ne peut pas forcément l'être. Alors, que nous apprend cette histoire sur la justice de Dieu ? Je vous propose de le voir en 5 points. La première, chose. Oui. Cette histoire nous montre que Dieu est juste car il ne regarde pas à ce que nous sommes. Sa justice, elle est pour tous. Ici, on voit que 1 Roi 3:16, c'est pas noté dans cette histoire, forcément c'est adapté aux enfants. En fait, les deux femmes qui viennent voir le roi Salomon, ce sont deux prostituées. Donc autant dire, pour l'époque, ou même encore pour aujourd'hui, des femmes qui n'avaient pas certainement une belle image dans la société. Et pourtant, la justice de Dieu, ici, à travers Salomon, elle va s'appliquer pour ces femmes, et une d'entre elles, malgré que ce soit une femme de mauvaise vie, va en bénéficier positivement, et une autre négativement. Des fois, on pourrait penser et se dire, la justice de Dieu, elle est que pour ceux qui ont une mauvaise vie, elle n'est pas pour moi, moi je suis bon, je suis sauvé. Ou inversement, dire, moi je me sens concerné par la justice de Dieu. Ici, on voit bien la justice de Dieu, c'est une réalité, elle est pour tous, qu'on soit chrétien, pas chrétien, bon ou pas bon, on peut en bénéficier positivement ou négativement. C'est un peu comme la croix, j'ai envie de dire. Jésus est venu sur la croix pour qui ? Il est mort sur la croix pour les péchés des méchants, ceux qui sont bons, c'est bon, ils n'étaient pas... Non, pour tous. Et à la croix, que s'est-il passé ? À côté de Jésus, il y avait qui ? Il y avait deux brigands. Et un brigand a bénéficié, un peu comme, si on peut faire le lien avec ces deux femmes, positivement de la présence de Jésus, puisqu'il a pu bénéficier de la vie éternelle, d'hériter de la vie éternelle, pendant que l'autre, naturellement, j'ai envie de dire, se l'est repoussé. Ici, Dieu est un Dieu juste, car sa justice est pour tous. Mais Dieu est également un Dieu juste, surtout parce qu'il se montre plein d'amour et de bienveillance dans ses jugements. Le tout sans rancune. Ici, même si une femme a bénéficié positivement de la justice de Dieu, l'autre, certes, l'a perdue. C'est logique, puisque ce n'était pas son enfant, et Dieu est un Dieu juste. Mais à aucun moment dans l'histoire ici, ou quand on lit 1 Roi 3, il est dit que cette femme, qui avait pourtant menti au roi, qui avait pourtant volé le bébé d'une autre femme, à aucun moment il est noté, alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, mais à aucun moment il est noté que celle-ci a été jugée, a été condamnée ensuite. Ça prouve que finalement, à travers cette situation, Dieu a su parler à son cœur, et je pense qu'elle a pris une bonne leçon, et qu'elle suffisait, cette leçon. Mais à aucun moment il y a eu de la rancune de la part du roi Salomon en disant qu'on donne le bébé à cette femme et que celle-ci on la lapide et qu'on la tue. À aucun moment en tout cas. Ça ne veut pas dire, mais je pense que s'il n'est pas noté, je me donne le bénéfice du doute, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que la justice de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour et de bienveillance. Troisième point, Dieu est un Dieu juste parce qu'il récompense les justes et reprend ceux qui ne le sont pas. Vous savez, il y a Galates 6:7, vous connaissez tous ce passage qui dit « On récolte ce que l'on sème ». Alors, on l'utilise bien, et ça, qu'on soit chrétien ou pas, on l'aime bien, celle-là. Tu récolteras ce que tu as semé. Mais c'est vrai, d'une certaine manière. Et ici, on le voit bien dans cette situation, Dieu récompense les justes, mais aussi reprend ceux qui ne le sont pas. C'est des fois difficile à comprendre, du moins à assimiler pour sa propre vie, parce qu'on se dit... des fois, on a conscience que quand on fait du bien, on a envie de récupérer du bien derrière, mais on a du mal à imaginer que quand on a du mal, on peut aussi bénéficier du mal. Je vais vous donner deux petits exemples personnels qui nous est arrivé avec mon épouse, anciens et récents, où on a pu appliquer ça. Et j'y ai repensé en faisant ça. On venait d'avoir, ça fait 8 ans hier qu'on a notre maison, on venait d'avoir notre maison et je vais faire les courses. Je me souviens toujours, donc pas trop loin. Et sur le parking, une personne m'interpelle. C'est il y a longtemps, donc il y a 8 ans. Me dit, un peu moins, on était là depuis quelques temps dans la maison. Et une personne me dit, monsieur, excusez-moi, je suis à Bruges, je suis tombé en panne, j'essaie de retourner chez moi à Arras, j'ai plus de téléphone, en plus je suis parti sans mes papiers ce matin, est-ce que ça vous dérangerait pas de me dépanner et de me déposer un peu plus loin, au bus ou au métro ? Moi, sur le coup, j'avais mes courses à faire, j'ai dit, écoutez monsieur, j'ai mes courses à faire, on verra après. Et puis je faisais mes courses et je repensais à ce moment-là, toujours à ce que maman nous disait quand quelqu'un venait sonner à la porte quand on était petit. Moi, sur le coup, j'allais dire, il m'embête un peu, quoi. J'avais autre chose à faire. Et qui dit toujours, quand quelqu'un sonne à ta porte ou vient te voir pour te demander de l'aide, pose-toi la question si ce n'est pas Jésus ou un ange qui se déguise derrière cette personne. Si tu réponds positivement, alors fera plaisir à Dieu, mais si tu ne réponds pas, alors tu seras passé à côté. Et je faisais mes courses et je pensais à ça, ce qui fait que je fais mes courses, hop, je range mes courses et je vois que cette personne est encore en train de tourner sur le parking. Du coup, je lui dis, monsieur, venez, je vais vous déposer au bus le plus proche. C'est ce qu'il m'avait demandé à l'arrêt de bus le plus proche. Et puis, donc cette personne dans la voiture, ah, merci beaucoup, monsieur, merci. Je dis, bah, il n'y a pas de souci. Il me dit, est-ce que je peux pousser un peu le bouchon? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas? Il me dit que vous me déposiez au métro, donc à Tourcoing. Bon, je dis, je regarde ma montre, je ne le dirai pas à mon épouse parce qu'elle va m'ouvrir. Si je me dépêche, il y a tout le frais qui est dans le frigo, dans le coffre, hein, ça va. Donc j'y vais jusqu'à Tourcoing. Et là, le monsieur dit, ah, oh, mais vraiment, vous êtes gentil. Est-ce que je peux pousser le bouchon encore plus loin? Oh, punaise. Est-ce que vous n'auriez pas un peu d'argent à me dépanner pour que je puisse prendre le métro et ensuite un train pour arriver jusqu'à Arras? Et là, je venais de donner juste avant un cours particulier. Et c'est là que je me suis dit que je vais me faire vraiment taper sur les doigts par ma femme. J'avais donc un billet de 20 euros dans ma poche parce que j'avais donné un cours de particulier de maths. Et là, à ce moment-là, j'étais vraiment quand même pris de compassion pour cet homme. Je ne faisais vraiment pas ça de façon intéressée parce que je me disais vraiment, cet homme, je me mets dans sa situation. Peut-être qu'il était malhonnête. Rien nous le dit. Mais je dis, allez, je sors mes 20 euros. Je dis, ben, tenez, monsieur, comme ça, vous pourrez. Et là, il était vraiment... J'ai vu à sa tête, il n'était pas bien. Il dit, oh, vous ne savez pas comment... Ça me fait vraiment plaisir, etc. Il dit... Et il m'a dit, parce qu'on est passé devant la maison en allant, il me dit, demain, je vous assure, j'ai vu où vous habitez, on se donne rendez-vous à 10h à la mairie, je vous rendrai 200 euros. 10 fois plus que ce que vous m'avez donné. Je dis, bon, d'accord, je ne fais pas ça pour ça. Il dit, non, j'insiste, vraiment, vraiment. Bon, je rentre à la maison, je le dis à Pauline, elle dit, t'es fou, t'as donné 20 euros à l'inconnu comme ça. Je dis, bah, c'est tout, c'est comme ça. Je le sentais, il fallait faire. Et je dis, en plus, demain, il m'a dit. Elle dit, on verra. Le lendemain matin, je vais bien sûr à la mairie à 10h, je m'assois. Bon, je dis, on verra. Bah, jamais il est venu, hein. Je me dis clairement, il est jamais venu. Et je rentre à la maison, deuxième salve. Oh, quoi, t'as vu, je t'avais dit, tout ça. Bon, je dis, bah, c'est tout, je me suis fait avoir, mais je l'ai fait avec un bon cœur. Voilà. Puis c'est tout, puis je repensais ce que maman disait. Et véridique, hein, dans l'après-midi même, on a Gaz de France qui nous appelle et qui dit, bonjour monsieur, oui, bonjour. Voilà, on a un petit souci. Je crois que c'était en décembre, en fait, cette histoire. Depuis que vous êtes dans la maison en septembre, ben, il y a zéro de consommation sur votre compteur de gaz. Ah bon, ben, écoutez, je ne sais pas. Il dit, ben, allez voir. J'ai dit, en effet, il y a zéro. Et en fait, mon compteur de gaz était cassé. Il dit, bon, ben, du coup, ben, c'est qu'il est cassé, on va venir changer. Et du coup, ben, comme vous n'avez rien utilisé, on va vous rembourser vos consommations jusqu'à septembre. Ah, il dit, et ça fera une somme de 203 euros et quelques. Et je me suis dit, ben, le Seigneur, il est beau, parce que c'est beau ce petit clin d'œil. Et ça reprend l'idée ici. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur, vous le verrez pourquoi après. Mais je pense avoir fait ça avec un cœur juste et vraiment un cœur pour vraiment bon. Enfin, voilà, je me permets de le dire. Et Dieu, dans ce cas-là, il nous récompense, si on le fait avec un bon cœur. Mais quand on ne le fait pas avec un bon cœur, ou quand on n'est pas juste, il nous reprend aussi. Pendant le confinement, on a envoyé un colis avec mon épouse pour vous montrer qu'il y a aussi l'autre face. Et puis, il fallait faire un timbre, envoyer un colis. Puis, avec mon épouse, elle dit « Ah, maintenant, on peut faire sur Internet. Vous savez, mettre une lettre. » Donc, on regarde, c'est un petit colis, on pèse. Et puis, pour 10 grammes, on passait de 1 euro à 3 euros. Puis, elle rigole, elle sait. « Oh, 10 grammes !» On avait 1 kilo et 10 grammes. Oh, « Allez, viens, on fait comme si c'était 900 grammes. » On le fait. Et puis, elle, on l'envoie le colis. On se dit bah, « Au pire, c'est pas grave, ça passera. » Et bien sûr, le colis nous est revenu. Mais attention, et c'est là encore que le Seigneur est bon et fait des clins d'œil. Il n'est pas revenu parce qu'on s'est trompé de poids. Il est revenu parce que la personne à qui on devait l'envoyer nous a envoyé sa fausse adresse. Donc en plus, on a dû repayer un timbre pour le renvoyer. Mais vous voyez, quand on fait aussi, le Seigneur nous récompensait juste, mais il sait reprendre aussi avec bienveillance et amour toujours quand on ne le fait pas. C'est dans les deux sens. Et c'est super important. Voilà pour un peu les petites histoires. Alors ici, je vous vois déjà venir, vous allez dire, bah, on va rentrer, chérie, punaise, dès qu'on voit quelqu'un au feu rouge, on lui donne 20 euros, hein, parce que si c'est comme Geoffrey. Non, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et c'est important aussi ici, Dieu est un Dieu juste parce qu'aussi il ne suffit pas aux façades, mais sa justice révèle et juge les cœurs. Ici, qu'est-ce qui va faire que cette situation va donner justice à la bonne personne? Salomon va avoir les mots justes qui vont révéler pas les façades, parce qu'au début c'était « non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi ». Dès qu'il va toucher au cœur en l'occurrence ici de la maman, en disant « on va le couper en deux », c'est là que va se révéler sa justice. Dieu ne se fie pas aux façades, mais ce qui compte, c'est qu'on le fasse avec bon cœur. Amen. Ça me fait penser aussi pendant cette période de confinement, hein, on en a eu plein des exemples, j'ai suivi ça. Vous savez, il y en a, ils ont fait des dons aux hôpitaux. Et notamment les footballeurs, alors c'est mon truc, donc j'ai suivi. Et moi, ça me faisait rire, je ne suis pas là pour juger, mais presque. vous aurez compris, mais je pense que vous jugerez comme moi, ceux qui donnaient des dons et que c'était anonyme, des grosses sommes. Je trouve ça beau. Et puis, il y avait certains footballeurs, ils faisaient des dons, une très grosse somme, et puis ils faisaient un communiqué de presse 5 minutes après. Je trouvais ça un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est de la façade, mais Dieu, lui, ce qu'il regarde vraiment, c'est ce qu'on a dans le fond du cœur. Et quand on le fait avec cœur. Enfin, dernier point, Dieu est un Dieu juste parce qu'il règle les situations simplement, sans polémique, sans gros discours moralisateurs, pour reprendre ici l'histoire de Salomon. Comment Salomon a manifesté la justice de Dieu ici ? Il a pris une longue période d'écoute, on le voit au début de l'histoire, même quand on lit dans 1 Roi 3, et il dit que deux phrases qui vont tout régler. Des fois, je ne sais pas si vous avez le cas, mais c'est mon cas, quand on veut régler une situation, quand on veut faire aller justice humainement, on croit que c'est à coup de grandes paroles, de grandes polémiques, de grands discours qu'on va régler ça. Non, Dieu, c'est simple. Avec lui, c'est deux phrases et on comprend. C'est juste une lettre qui revient et on comprend. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas besoin de grands discours. Et il n'y a même pas besoin derrière de rajouter une couche moralisatrice. Amen. Voilà. Cherchons la sagesse de Salomon. Soyons-en sûrs, Dieu est un Dieu juste. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Proverbe 3:13. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face, Psaume 9:4. Voilà, j'espère que ça vous a parlé ce matin. Je voulais terminer en priant, si vous voulez bien, baisser la tête et puis nous remettre à Dieu par rapport à tout ça. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu infiniment grand et Seigneur, on ne s'arrêtera jamais, je pense, Seigneur, de découvrir toutes les facettes de ta grandeur, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce qu'à travers l'exemple de cet homme, de Salomon, Seigneur, tu nous permets des fois de ressortir des choses que nous pouvons peut-être oublier ou même ignorer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sagesse de Salomon. Merci pour cet exemple aussi, Seigneur, que tu as placé à travers cet homme. Que, Seigneur, nous puissions saisir cet exemple et essayer de l'appliquer à notre propre vie. Alors, Seigneur, certes, tu l'as dit, il n'y aura pas d'homme plus sage que Salomon, Seigneur, mais qu'à travers des petits exemples, et notamment, Seigneur, quand nous avons parfois des situations à gérer où nous devons faire preuve de sagesse et d'intelligence, alors, Seigneur, nous puissions simplement nous remettre à toi. Pour te demander, Seigneur, pas simplement de compter sur nos propres forces, sur notre propre sagesse, notre propre intelligence, mais aussi sur la tienne, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, je veux également te prier pour le Dieu juste et te remercier pour le Dieu juste que tu es. Je sais que ce n'est pas facile pour certains de se dire, Seigneur, que tu peux être un Dieu juste par rapport à ce que nous avons vécu, ou des fois nous avons eu peut-être la sensation dans notre vie de vivre des injustices. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses mettre dans nos cœurs cette... certitude, c'est que tu es, oui, un Dieu juste, un Dieu bienveillant, d'amour, avec tous ces points, Seigneur, et que ta justice, à un moment donné, Seigneur, se fera dans chacune des situations de notre vie. Que toute la gloire te revienne, Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen, Seigneur.